Merci d'être venu pour cette troisième séance de notre exploration collective de l'impact potentiel des nouvelles technologies, essentiellement biomédicales et numériques, sur ce qu'on l'on intuitivement pressent comme l'idée d'un totalitarisme, d'une nouvelle forme de totalitarisme, l'exemple caricatural étant bien sûr Google, mais aussi d'explorer tous ensemble pourquoi on regarde ça avec au mieux une espèce d'indifférence, au pire une participation consciente à créer les outils pour notre propre aliénation. En d'autres termes, nous avons tous des smartphones et ces smartphones sont des merveilleux engins qui peuvent, Imatu Bella nous l'a montré la dernière fois, complètement organiser et rythmer notre vie quotidienne et sont une extraordinaire boîte de résonance de toute notre intimité. Et donc, notre exploration vise à essayer de comprendre comment se fait-il que nous n'ayons finalement assez peu de craintes, que nous n'essayons pas de résister, mais que, bien au contraire, beaucoup d'entre nous vont ajouter déjà à tout un tas de systèmes d'information, Facebook, Twitter et beaucoup d'autres. À chaque fois qu'il y en a un nouveau qui apparaît, pourquoi pas l'essayer, etc. Imatu Bella nous ayant dit que la France était, selon elle, le pays qui consommait le plus Google de tous les pays développés. On se demande pourquoi. Voilà. Donc, on va poursuivre cette réflexion collective en s'intéressant aujourd'hui à la maltraitance que peuvent provoquer les nouvelles biotechnologies sur le corps humain, toujours pour de bonnes raisons, toujours bien sûr parce que elles apportent aussi ces biotechnologies un progrès, entre guillemets, en tout cas des capacités de faire des choses qu'il n'était pas possible de faire avant, quelquefois pour le meilleur, mais aussi quelquefois pour le pire. Et avant ça, d'entrer dans le corps de ce débat, je voudrais revenir sur ce dont on a parlé la dernière fois, qui est notre souhait de conclure ces quatre séances de réflexion par un colloque. Alors les choses se sont un peu précisées. Au sens où l'organisation d'un colloque dans la deuxième quinzaine de juin est possible. On pourrait obtenir une contribution, en tout cas d'un certain nombre des titulaires de chaire du Collège d'études mondiales de la Maison des sciences de l'homme. Mais, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on aimerait que ce séminaire ne soit pas seulement un séminaire du top-down, de nous qui amenons des choses et puis vous qui écoutez et participez de manière tout à fait intéressante, mais qu'il y ait parmi vous aussi des gens qui aimeraient contribuer à ce colloque, c'est-à-dire à partir de tout ce que vous aurez appris et ce sur quoi vous aurez réfléchi pendant ces quatre après-midi, d'en tirer quelque chose qui pourrait faire l'objet alors d'une forme d'opinion personnelle slash synthèse et qui pourrait servir éventuellement d'introduction à quelques tables rondes. Donc, bien que le taux de réponse à nos propositions d'évaluation de la séance précédente soit assez modeste, mais on va mettre ça sur la timidité, la difficulté d'utiliser une langue, le français, qui n'est pas forcément familière pour tout le monde, qui n'est pas la tienne, voilà. Bref, voilà, il faut que pour monter ce colloque, il ait de l'intérêt et qu'il attire du monde, il faut qu'il ressemble, pas seulement dans la forme, mais aussi dans le fond, à une véritable conclusion de ce dont on aura parlé pendant ces quatre séances. Même si éventuellement on l'élargit à des questions, mais finalement pas tellement, à des questions peut-être plus globales. Mais fondamentalement, voilà, on a cette possibilité, on a un petit budget raisonnable qui peut nous permettre d'inviter deux, trois personnalités un peu connues qui elles-mêmes feront que d'autres personnes qui n'ont pas participé à ce séminaire viennent. Voilà, je vous mets ça dans la tête, donc on va vous écrire en vous proposant tout simplement, comme on fait dans notre monde, de nous écrire un projet. C'est-à-dire, en gros, un titre et 10 lignes sur ce que, éventuellement, vous aimeriez soulever comme question, personnellement, au cours de ce colloque. On se réunira et puis on verra celles qui nous semblent les plus intéressantes. Et à ce moment-là, on pourra construire autour de ces idées qui ressembleront encore une fois à ce qu'on a fait pendant ces quatre séances. On construira 3 ou 4 tables rondes avec l'idée ce qui sort de ce séminaire vient se confronter avec des penseurs, des gens qui réfléchissent et qui n'ont pas bénéficié de notre réflexion collective, et donc jouer sur cette dynamique de nous ayant partagé un certain nombre de questions avec des gens qui, certes, ont écrit des bouquins sur ces questions, mais qui ont quelquefois des visions moins riches que celles qui peuvent émerger de nos discussions. Et donc, voilà, on aurait envie de construire un colloque comme celui-là, l'idée finale étant qu'il reste du travail qu'on a fait ensemble, un document qui serait un document de la postmodernité, c'est-à-dire qu'on retrouve ici, mais aussi sur du dur, genre CD-ROM plus papier, mais aussi disponible ici. Un document dans lequel on découperait pour chaque séance une demi-heure de débat et d'intervention particulièrement pertinente, et à la fin, le colloque, et que tout ça ferait un outil pour la recherche, mais aussi pour tous ceux qui, en regardant Internet, auraient envie de s'intéresser à toutes les choses dont on aura parlé pendant ces quatre séances et le colloque. Voilà. Alors, pour parler du corps, je vais faire un petit détour par l'histoire. Il y avait des jolies images. En fait, le corps ne commence à apparaître, selon les historiens, que comme une préoccupation plus centrale dans la société qu'au moment de la Renaissance, même si, au temps de l'Antiquité, au Moyen-Âge, il y a des tas de représentations du corps, mais que comme objet central qui va devenir, et je vais y revenir, un objet de politique, c'est véritablement à partir de la Renaissance et beaucoup plus à partir du XIXe siècle que le corps devient central et devient véritablement un objet sociétal et un objet de politique. C'est ce que Foucault a appelé le biopouvoir, la biopolitique. Je vais y revenir. Donc, le corps, on a vu par exemple la dernière fois que 60% de tous les objets connectés portables avaient à voir avec la santé, donc d'une certaine manière avaient à voir avec le corps. C'est un enjeu aujourd'hui économique, et en particulier c'est un enjeu économique de l'économie numérique. C'est un marché. Il y a un marché du corps. Que ce soit le corps entier ou le corps coupé en petits morceaux ou les produits du corps ou les fonctions du corps. Donc j'étais toujours dans l'histoire. le corps faisait déjà l'objet d'un marché dans l'histoire, l'esclavage, toutes les formes de servitude liées au travail, toutes les différentes formes de prolétariat et bien sûr la prostitution. C'est un marché qui est très particulier puisque on prend du corps pour remplir un certain nombre de tâches qui vont jusqu'à soustraire des parties essentielles du corps des uns pour le bénéfice d'autres. Et c'est aussi sur le plan de l'économie numérique un marché très particulier puisque le corps donne à chaque instant de lui-même pour nourrir, et on va maintenant y revenir si ça marche, cette espèce d'immense trou noir cosmique qui est le big data, c'est-à-dire cette boîte noire dans laquelle s'accumulent en permanence, à l'instant où nous parlons, des milliards et des milliards de bytes de données. Donc, le corps est aujourd'hui devenu un marché. Et donc, on rejoint la notion de biopouvoir de Foucault, qui est que, à partir du XIXe siècle, le corps s'émancipe peu à peu des puissances occultes. Il existe pour lui-même, et comme il est une forme de liberté, comme il devient une puissance, l'État, c'est-à-dire la société, créer des contraintes qui viennent s'ajouter, alors des contraintes qui tendent à limiter la liberté du corps, mais aussi y ajoutent cette découverte qui date donc de la fin du XVIIIe siècle, en gros de la Révolution française, qui est que l'intérêt pour le système économique en train de se construire, qu'on appelle le capitalisme, son intérêt, ce n'était plus d'avoir simplement des muscles qui étaient remplaçables par d'autres muscles, c'était qu'ils avaient besoin d'un certain savoir et que donc il fallait dépenser de l'argent, investir dans l'humain en lui offrant du savoir. Et donc l'intérêt en termes d'investissement, c'était que le temps de vie de cet investissement soit le plus long possible, et donc il fallait que les gens soient au minimum un peu éduqués et en minimum en bonne santé. Et c'est donc au début du XIXe siècle que ont commencé à se développer les systèmes scolaires qui n'étaient pas réservés qu'à certaines élites, et la santé publique, même si elle avait été formulée et déjà mise en place dans certaines situations, en particulier épidémiques, au cours du XVIIIe et du XVIIe siècle. C'est véritablement au XIXe siècle qu'apparaissent les premières grandes mesures législatives concernant l'hygiène et donc les punitions qui vont avec lorsqu'on ne respecte pas les règles. Puis c'est au XXe siècle que se développe la vaccination obligatoire, autre intervention de l'État destinée à améliorer notre santé de manière obligatoire. C'est plus tard l'apparition de la contraception, qui peut être aussi vue comme une forme, et on l'a vu en particulier en URSS, une forme de contrôle de la reproduction. Enfin, c'est toutes ces lois qui, aujourd'hui, codifient. L'État codifie nos comportements, l'alcool, le tabac, l'alimentation, etc., etc. Bien sûr, vous vous rappelez que toujours, c'est à la fois pour notre bien. On a tous intérêt à améliorer notre santé, on a tous intérêt à moins souffrir, et donc on accueille tout cela, en tout cas une partie d'entre nous, comme un bénéfice. Mais en contrepartie, on offre de plus en plus notre corps à un encadrement législatif qui fait que cet encadrement existe, et si la nature du pouvoir change, les nouvelles formes de pouvoir trouveront tout organisé les moyens de coercition sur le corps. Alors, Vous voyez comme je suis en train déjà de décrire la littérature dystopique, puisque c'est exactement ça la définition de la littérature dystopique, c'est un régime totalitaire qui s'appuie, sur des outils de coercition sont essentiellement représentés par la science et la technologie. Alors, pour faire un lien avec la séance de la dernière fois, on n'avait pas pu passer cette petite vidéo tout à fait didactique qui, pour ceux qui l'ignoreraient encore ou qui n'étaient pas là la dernière fois, va vous rappeler très simplement ce que c'est que le Big Data.
Vous êtes le produit. Bonjour. Pas les données personnelles. Elles volent partout, tout autour de nous. Notre position GPS, les calories perdues pour aller jusqu'au bureau, les heures de sommeil accumulées, le détail de vos virées en vélo ou en taxi, jusqu'à votre carte grise, une mine d'informations. Tous ces chiffres, une fois récupérés et bien stockés, c'est ce que l'on appelle le Big Data.
Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on aurait dû se passer la dernière fois. Comme maintenant à peu près tout le monde est là, j'en profite donc pour d'une part accueillir René Friedman, qui nous avons demandé de participer à cette séance, certes parce qu'il est un spécialiste de la reproduction, mais surtout parce qu'il produit une émission que je pense certains d'entre vous ont déjà entendue, Révolution médicale, le mardi de 16h à 17h. Voilà. Et donc, cette première partie va être divisée en trois, c'est-à-dire que nous allons tous les trois, Ima Tubela, René Friedman et moi-même, vous donner trois regards sur la manière dont le corps est manipulé, pour ne pas dire maltraité parfois, par les nouvelles technologies. Et dans la deuxième partie, comme à chaque fois, on discutera de tout ça tous ensemble. Bon, alors, nous reprenons la technologie. Voilà. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Plusieurs d'entre vous se sont plaints de ne pas avoir le temps de noter, etc. Le plus simple, c'est peut-être qu'on vous envoie ça. Mais la question, c'est que c'est tellement lourd que ça ne passe pas dans un email. On est obligé de le couper en 3 ou 4, etc. Donc, Ima a fait plus intelligent que moi, c'est-à-dire elle a noté directement la référence sur Internet, ce que je vais faire en particulier pour ces 5 livres. Je vous recommande en tout cas les 3 derniers qui sont en fait un ensemble cohérent, c'est-à-dire c'est l'histoire du corps depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, de Vigarello, Corbin et Courtine. J'en étais à cette question du biopouvoir, qui est donc une intuition de Michel Foucault, je ne comprends pas d'ailleurs toujours exactement ce qu'il veut dire, en particulier dans cette fameuse phrase « on passe d'une période où on laisse vivre et on fait mourir à une période où on fait vivre et on laisse mourir ». Je vois bien ce qu'il veut dire. Mais c'est surtout parce qu'il veut mettre en évidence que la loi n'est plus seulement le cadre régulateur de la société. Et comme on l'a vu la dernière fois, la norme tend peu à peu à se substituer. On a parlé la dernière fois de normopathie, c'est-à-dire cette maladie de beaucoup d'entre nous qui consiste à sans arrêt se comparer à la moyenne, sans arrêt partager avec d'autres ses performances dans l'idée d'être le plus proche possible de la norme étant vécue comme, ou se rapprochant en tout cas de l'idée de la perfection et éventuellement de l'enfant et l'homme parfait dont on va reparler tout à l'heure. Alors, cette notion de biopouvoir qui vient se renforcer à la notion, on va dire, de pouvoir numérique, dont on a déjà abondamment discuté et on va continuer à le faire, on l'a regardé comme on vous y invite ce séminaire, à travers la littérature dystopique. Et on voit que ces écrivains, qui ont écrit tous ces livres avant que ces technologies n'existent, finalement, nous proposent des modes de contrôle de la société, de contrôle de l'individu et de contrôle de leur corps qui sont extraordinairement d'actualité. Contrôler la procréation, transplanter les organes, créer des substances chimiques pour le bonheur. Le soma de Huxley, c'est le Prozac d'aujourd'hui. Contrôler le cerveau, bien sûr, et manipuler les comportements. Alors voilà, je voulais représenter de cette manière, pour aussi inviter ceux qui n'ont pas encore lu un certain nombre de ces ouvrages, éventuellement de s'y plonger. On va retrouver la procréation contrôlée, aussi bien dans Le meilleur des mondes que dans Un bonheur insoutenable, que dans Never Let Me Go, que dans Margaret Atwood, c'est-à-dire toujours l'idée que le pouvoir doit contrôler la reproduction. Alors ça va évidemment beaucoup plus loin que ça, puisque non seulement le pouvoir veut contrôler la reproduction, mais il veut contrôler encore plus que ça. Il veut contrôler aussi la sexualité, et donc il va séparer, et on va le retrouver dans plusieurs de ses ouvrages, la sexualité de la reproduction. Il veut aller vers un homme idéal, c'est-à-dire celui qui considère que le système dans lequel il vit est le système idéal, c'est le bonheur absolu, pas du tout insoutenable celui-là, et donc c'est les manipulations génétiques que l'on retrouve dans plusieurs de ses romans. Une fois que l'homme idéal a été trouvé grâce aux manipulations génétiques, l'homme idéal, rappelez-vous dans Le meilleur des mondes, c'est 5 catégories d'hommes. Donc idéal veut dire aussi, disons, l'humain qui entre dans une de ces catégories, et pour cela, donc, il faut vous rappeler dans Le meilleur des mondes, le manipuler génétiquement, le mettre dans des bains particuliers avec des niveaux d'alcool différents, etc. Et donc, tout ceci, évidemment, la photocopie de l'homme idéal, c'est le clonage. Et enfin, dans Margaret Atwood, on trouve, de la manière la plus simple mais la plus terrifiante, jusqu'où le concept de mère porteuse peut aller, puisque finalement ça devient non seulement un métier mais une forme d'esclavage dans son roman. Le deuxième apport de la littérature dystopique, c'est bien sûr ce fabuleux roman Auprès de moi toujours, Never Let Me Go, qui donc traite de la question complètement banalisée de la production d'êtres humains comme réservoir de produits et de substances pour les autres, par clonage. Alors, la question de l'organe, aujourd'hui, elle se pose pas encore sous forme de clonage, mais elle se pose sous forme de utilisation d'un autre comme réservoir de son propre corps, ou le réservoir des organes de son propre corps, l'autre étant, bien entendu, pauvre, pas éduqué, ayant la peau qui n'a pas la même couleur, habitant loin, etc., etc. Donc, finalement, métaphoriquement, on est assez proche de l'idée de ce que, alors, étonnamment, Karl Marx a appelé le prolétariat d'homme-objet, puisque ce bon vieux Karl, il dit dans le manifeste du Parti communiste de 1848 que lorsque l'homme n'aura plus rien à vendre, c'est-à-dire plus sa force de travail, il pourra encore vendre son corps, et il le dit, entier ou en morceaux. À la moitié du XIXe siècle, c'est une jolie intuition que vous trouverez donc dans le manifeste du Parti communiste. Et il va même plus loin puisqu'il dit que quand l'homme n'aura plus que son corps à vendre, il ne pourra le vendre que sur un marché, et donc son corps sera soumis aux règles du marché, c'est-à-dire qu'il pourra s'apprécier à certains moments et se déprécier à d'autres. Le meilleur exemple, c'est les camps de réfugiés syriens au Liban, où le prix du Rhin s'est effondré puisque l'offre était supérieure à la demande. Il y avait plus d'offres de Rhin qu'il n'y avait de demandes de greffe rénale de la part des hôpitaux et des cliniques libanaises. Alors, on continue dans les intuitions. La question de l'immortalité est une question que, qu'on le veuille ou non, nous avons tous quelque part dans nos têtes, en tout cas beaucoup d'entre nous. Et il est clair que d'offrir un petit peu d'immortalité supplémentaire est un extraordinaire moyen de faire passer un certain nombre de contraintes supplémentaires. Et qu'on peut facilement, comme on l'a vu tout à l'heure pour les 70% de Français qui sont prêts à se connecter dans leur voiture, c'est-à-dire à se faire observer en toute conscience si on leur diminue leur prime d'assurance, eh bien, on peut imaginer que si on vous donne quelques années de plus, on oubliera de dire en bonne ou en mauvaise santé, vous êtes prêts à offrir un peu de votre liberté. Et donc, on revient vers cette question de ce séminaire qui est fondamentalement, est-ce qu'il n'existe pas chez nous un espèce de désir de simplifier quelque chose qui est devenu trop compliqué et qui nous pousse finalement à offrir à des formes sophistiquées de totalitarisme des outils pour s'installer. Alors, Dans ce séminaire, on n'a pas beaucoup mis en avant les fantasmes, pour faire simple, Hitler-Staline. On essaye plutôt de travailler, en termes de métaphore, plutôt sur Google, plutôt sur Facebook, plutôt sur ces outils aujourd'hui du numérique qui, l'air de rien et avec un sourire formidable, vous proposent des choses qui, finalement, nous intéresse, en tout cas pour une partie d'entre nous, mais qui font qu'on donne à chaque fois une partie de nous-mêmes. Et je dis ça parce que ici, il y a une question qui est passée relativement inaperçue, même si la presse en a parlé, c'est la question de la procréation dans ces grandes firmes multinationales. Vous vous rappelez peut-être que l'été dernier, Facebook et Apple ont proposé à leurs femmes cadres de congeler leurs ovocytes pour pouvoir avoir des grossesses quand l'organisation de la société, de leur société, Apple ou Facebook, le permettra, c'est-à-dire que finalement, ce sera la firme dans laquelle on travaille qui décidera du temps de la grossesse. Et de là à franchir le pas, qui est tout simple, qui est, mais pourquoi même elle devrait porter cet enfant et pourquoi pas le faire porter par l'autre, on voit qu'on n'est pas du tout dans la science-fiction, on est tout à fait dans la réalité d'aujourd'hui. La troisième manière de contrôler le corps, alors celle-là, on la connaît tous, c'est bien sûr la chimie. Ce sont ces comprimés que Huxley appelle le soma. Vous n'allez pas trop bien, vous commencez à vous poser des questions, finalement le monde n'est pas aussi merveilleux qu'on veut bien vous le vendre, et donc vous avalez vos trois comprimés de soma, et puis tout va bien. Alors on a des équivalents du soma aujourd'hui dans notre arsenal thérapeutique. Je les ai, juste pour la bonne forme, séparés en trois catégories différentes que souvent on confond. Il y a le soma pour désangoisser et maintenir de bonne humeur. Il y a le soma pour donner du punch, de la niaque. Et puis, il y a des somas pour rire et être euphorique. Mais tout ça, c'est des choses qui sont à notre disposition aujourd'hui et dont on a pu voir à d'autres époques. Je pense aux hôpitaux psychiatriques de l'UNSS, combien les psychotropes étaient utilisés, puisque si vous n'acceptiez pas le système, on est bien dans la relation entre l'individu et la société totalitaire, dès que vous êtes un tout petit peu à côté, on ne va pas vous tuer tout de suite, on va d'abord considérer que vous êtes malade, puisque vous n'êtes pas d'accord avec le bonheur qu'on vous offre. Et donc, on a beaucoup utilisé, évidemment, les psychotropes dans les hôpitaux soviétiques, et que de ce point de vue-là, si je pense à la société française, qui est donc, avec le Japon, la plus grande consommatrice de psychotropes de la planète, voilà, je mets un point d'interrogation sur le fait que les psychotropes utilisés comme ils sont utilisés en France sont peut-être trop utilisés. En tout cas, ils vont peut-être au-delà du but qu'il aurait assigné. Et donc, de ce point de vue-là, la question du soma est au cœur de notre interrogation concernant... à chaque fois qu'on prend des psychotropes, est-ce que finalement, on ne prépare pas non plus une espèce d'acceptation tacite de contraintes nouvelles? La quatrième dimension, c'est le contrôle du cerveau. Alors, le contrôle du cerveau, on va le retrouver dans beaucoup des ouvrages dystopiques. Il y a de multiples manières de contrôler le cerveau. Celle que je trouve très intéressante, bien sûr, c'est tout ce qui tourne autour de la suggestion. Ces messages subliminaux dans Le meilleur des mondes qui sont envoyés dès la naissance, voire même avant, je crois, et qu'il appelle l'hypnopédie, qui finalement développe des croyances, une foi qui est au service effectivement du système qui l'organise. Dans Nous autres, on va beaucoup plus loin, puisque devant la résistance d'un certain nombre de gens, on propose avec le sourire une lobotomie. Et donc, on voit dans Nous autres les gens être ravis, je ne me rappelle plus quel est le terme qui est utilisé, d'aller se rendre au lieu où ils vont recevoir comme un don du ciel une lobotomie. Enfin, on l'a aussi vu... Ça s'appelle
La grande opération.
Voilà, c'est la grande opération, exactement. Enfin, on l'a vu la dernière fois avec, à propos du Parkinson, la stimulation cérébrale qui est remarquable du point de vue du traitement de cette maladie neurologique, aujourd'hui, évidemment, a ouvert la porte à des essais en termes de recherche sur la stimulation d'autres zones du cerveau, et en particulier, un certain nombre de chercheurs travaillent sur la mémoire et sur l'humeur. Donc, on a aujourd'hui les outils qui nous permettraient, en tout cas à moyen terme, de contrôler le cerveau comme les intuitions de la littérature dystopique nous le propose. Dernière manière de contrôler, c'est en fait la manipulation des comportements. Tous en parlent. J'ai introduit un livre qu'on vient de lire avec Ima, qui est 2084, que je vous propose, oui. Vous l'avez lu, donc ?
C'est pas facile.
Non, c'est pas facile. Mais qui traite d'aujourd'hui, c'est-à-dire, en gros, pour faire simple, c'est l'État islamique qui prend le pouvoir et qui réduit, évidemment, tout un tas de libertés. Et donc, il est clair, et là, de ce point de vue-là, l'expérience historique nous aide... la manipulation, et puis William Reich aussi, il y a toujours deux manières, il y a persuader, suggérer, faire adhérer, et puis il y a la peur, la mort, la torture, etc. Il y a un sujet peut-être sur lequel on pourrait revenir tout à l'heure, qui nous a beaucoup intéressé avec Ima, c'est que plusieurs de ses ouvrages traitent de la simplification de la langue. La bilangue de 2084, la novlangue de 1984, l'obligation de parler sous forme de citation de Fahrenheit. Et puis finalement, en discutant, moi j'avais écrit, mais on ne voit pas très bien aujourd'hui les choses aller dans ce sens. Et Ima a dit, mais si, le texto, qui est effectivement une réduction de la langue et qu'on utilise tous. Voilà, donc peut-être on peut revenir sur... Oui, on a discuté de ça, mais on a trouvé que l'accent circonflexe était peut-être quand même très limité. C'était très timide comme réforme. Voilà. Donc, tout ça, c'est... Si on essaye de trouver quelque chose de commun à tout ça. On va revenir à toujours ces mêmes images que sont l'idée d'une évolution consciente, plus ou moins, mais objective, de l'humain vers une espèce de standard, de corps standard, de pensée standard, déshumanisé, qui en fait une espèce d'objet plus facilement manipulable qu'il ne pouvait l'être avant, grâce en particulier à la technologie, tout ça pour, d'une certaine manière, imposer un bonheur, mais comme les régimes totalitaires du XXe siècle voulaient aussi imposer un bonheur. Léger détour, mais Lima va y revenir tout à l'heure, autour de l'eugénisme. Parce que l'eugénisme, même si Platon disait « l'élite des hommes doit commercer avec l'élite des femmes », Platon a une vision tout à fait élitiste de l'humanité, c'est lui qui a inventé ce qu'aujourd'hui les économistes libéraux ont repris sous forme de ce qu'ils appellent le « trickle-down effect », c'est-à-dire le ruissellement de l'élite vers le peuple. C'est-à-dire plus l'élite a d'avantages et de bénéfices, plus finalement l'ensemble de la société en profite. On voit combien Platon est d'actualité aujourd'hui. Mais en fait, ce n'est que Galton, qui était un philosophe anglais du milieu du 19e siècle, qui a véritablement défini l'idéologie eugénique en s'effrayant des mesures sociales qui étaient prises, en particulier avec les mineurs, pour pas qu'ils meurent comme des mouches. Et en opposant la sélection naturelle qui faisait que la sélection naturelle, ça sélectionne les meilleurs, les plus forts, ceux qui ont plus de chance, et que donc, en créant de l'État ou des systèmes protecteurs, on affaiblit en fait l'espèce humaine. Et donc, c'est sur cette base-là que Galton a développé son idéologie eugénique qui, malheureusement, évidemment, a été très généralisé dans la pratique par le régime nazi, mais aussi, et ça se sait beaucoup moins, aux États-Unis, dans les pays nordiques et en Suisse, où, jusqu'à une période encore, les années 70, on stérilisait les malades mentaux. Alors, dans notre discussion, je pense qu'on doit, même si on n'en est qu'au tout début, réfléchir aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui l'eugénisme génétique, c'est-à-dire cet eugénisme préventif qui fait qu'on va essayer, à travers une amniosynthèse, d'éviter qu'une trisomie 21 puisse se développer. Simplement, donc, on était revenu à quelque chose de beaucoup plus individuel et finalement tout à fait, non seulement acceptable, mais même utile. Et puis là-dessus, Emmanuel Charpentier trouve le CRISPR-Cas9, c'est-à-dire, donc ça date d'il n'y a pas très longtemps, ces dernières années, même c'est publié surtout depuis l'année dernière, cette espèce de ciseau génétique qui fait qu'elle est capable de disséquer des segments de gènes sur un morceau de génome, et que ça lui permet éventuellement de remplacer, d'abord de supprimer un gène déficient ou un gène producteur de maladie, mais aussi de le remplacer par un autre. Et que donc on voit là s'ouvrir, et d'ailleurs ça n'a pas traîné, puisque cet été, donc 2015, les Chinois ont publié sur Internet, puisque Science et Nature ont refusé leur publication pour des raisons éthiques. Ils ont donc utilisé la méthode de CRISPR-Cas9 sur 80 embryons humains. Donc on n'est plus très loin aujourd'hui de cette capacité de contrôle d'un certain nombre de caractères de l'humain. Voilà, et pour finir, quelques petits mots sur le corps augmenté, mais là encore, Ima va le reprendre. Bon, il y a le corps augmenté utopique, c'est le développement de toutes ces prothèses qui voilà, sont même capables de reconnaître ce que vous êtes en train de toucher. Et puis, il y a le corps manipulé pour des raisons alors, sociales et psychologiques, qui est le sport. Et que c'est dans le sport qu'on voit soit ça, Pistorius, avec ses deux prothèses, avoir des performances tout à fait spectaculaires. Mais on voit aussi ça, Lance Armstrong gagnant des Tours de France, non pas en buvant une coupe de champagne, mais en s'injectant mille trucs dans les veines. Et donc, aujourd'hui, le sport est complètement gangréné par l'idée de l'homme augmenté. Voilà. Je vous avais parlé la semaine dernière, et pour finir, de la délocalisation de la pensée, du « outthinking », c'est-à-dire c'est aujourd'hui cette offre que nous fait IBM de nous soulager le cerveau, qui bien sûr est trop plein, et donc de demander à Watson, notre ami Watson, qui bientôt va devenir notre ami à tous. Ça sera plus simple, ça sera pas comme Facebook, on aura un seul ami, ça sera Watson, de penser pour nous. Alors, juste pour terminer, je vous ai, vous allez évidemment le trouver assez facilement sur YouTube, mais enfin, je voulais vous montrer parce que ça dure pas longtemps. Voilà comment Watson se présente. C'est en anglais.
Hi Watson.
Annabelle, your birthday is tomorrow.
I'm turning 7.
What did you ask for?
A princess name.